Bonjour et bienvenue pour notre septième cours sur toujours Jacob. Nous allons revenir de Laban à Ésaü avec des préparations, mais nous nous étions arrêtés la semaine dernière à la séparation entre Jacob et Laban. Donc en fait, on peut même voir que souvent, ce qui lui arrive avec Laban, c'est un peu parallèle avec Ésaü. Nous allons voir avec Ésaü aussi, il y a une réconciliation, mais après, il y a aussi une séparation. Donc les deux vont toujours ensemble. Donc pour vivre en paix, il faut que chacun vit de son côté. Apparemment, c'est un peu le message que le cycle de Laban fait passer. Donc on reprend, vous vous souvenez, Laban avait rattrapé Jacob, n'était pas très content, ils se sont un peu disputés. Et puis, tout d'un coup, Laban propose quand même, conclut un traité, une alliance. Je vais vous lire les derniers versets du chapitre 31. « Maintenant, viens, moi et toi, allons conclure une alliance, moi et toi. Ce sera un témoignage entre moi et toi. » Et Jacob prit une pierre et l'éleva comme stèle. Jacob ou Laban ? Ça dépend en fait des manuscrits. Donc si on prend un manuscrit latin, c'est plutôt Laban, ce qui est plus logique. Mettons, Laban dit à ses frères, récoltez des pierres, ils en prirent, firent un tas et mangèrent là sur le tas. Laban lui donna le nom de Yega Sahaduta, donc il parle araméen, et Jacob lui donna le nom de Galed. Laban dit, ce tas est témoin entre moi et toi aujourd'hui, c'est pourquoi on l'a appelé du nom de Galed. Et Mitzpah, tout un coup à Mitzpah, car il avait dit que Yahvé fasse le guet entre moi et toi, quand nous serons hors de vue l'un de l'autre. Si tu affliges mes filles, et si tu prends des femmes en plus de mes filles, que personne n'est avec nous, vois, Dieu est témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce tas, et voilà stèle que j'ai jetée entre moi et toi. Cet tas est témoin, et cette stèle est témoin, que moi je ne passerai pas vers toi, au-delà de ce tas, et toi tu ne passeras pas vers moi au-delà de ce tas et cette stèle pour faire du mal ou pour le mal. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nahor, jugeront entre nous, Dieu de leur père. Jacob prêta serment par la terreur de son père Isaac. La terreur, on l'avait déjà vu la semaine dernière, si vous vous souvenez. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et appela ses frères à manger le repas. Ils mangèrent le repas et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva du bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Laban se met en route et retourna à son lieu. Alors, est-ce que vous avez bien compris ce texte ? Il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué. Déjà, la Septante, la version grecque, a une version très, très différente. Bon, je ne vais pas vous la lire, mais qui est plus simple. Donc, on peut se poser la question si c'est juste une relecture ou si peut-être la Septante avait un autre texte hébreu quand le traducteur a commencé à travailler. Parce qu'en fait, il y a des doublons et des choses pas claires. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met un tas de pierres, un cairn ? Ou est-ce qu'on met une matseba, une stèle ? Il y a deux mots qui sont expliqués, Galed, Galaad, donc un jeu de mots avec justement le stèle du témoignage. Par contre, Mitzpah, il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'il y a une allusion entre Mitzpah et matseba, qui peut être la stèle, c'est possible. Donc on a ce doublon entre la stèle et ce tas de pierres. Alors Jean-Marie Durand avait en effet observé que dans un texte Marie, il y aurait aussi une sorte de conclusion de traité où il y aura à la fin une sorte de tas de pierres et une stèle. Mais je suis allé voir ce texte, il n'est pas très clair. Donc moi, je ne suis pas très convaincu que c'est vraiment le cas. Donc je pense qu'on a plutôt soit deux variantes ou un texte de base auquel on a rajouté, la stèle. Donc, si vous lisez que le bleu, où il n'y a que le tas, maintenant, viens, moi et toi, nous allons conclure une alliance. Laban dit à ses frères, récoltez des pierres. Laban dit, ce tas est témoin entre moi et toi. On donne le nom, Galed. Laban dit à Jacob, voici ce tas que j'ai jeté. Donc, les pierres, on peut les jeter. Une stèle, on ne la jette pas tellement. Donc, si vous lisez que le bleu, vous avez en fait un récit qui se tient. Donc, je pense que c'est le texte de base, une alliance entre Laban et Jacob, une alliance, une bérite, un traité qui est coupé. Donc, vous vous souvenez pourquoi elle est coupée ? Parce que souvent, ça s'accompagne par des sacrifices. On coupe les animaux en deux. Et d'ailleurs, à la fin, Jacob, justement, fait un sacrifice. Et donc, ce cairn, ce stag que Laban fait dresser, il marque la frontière entre le clan de Laban et le clan de Jacob. Donc, du coup, on a peut-être là, vous vous souvenez, je vous ai dit, la forme la plus ancienne qu'on peut reconstruire, elle date du 8e siècle, mais là, on a peut-être une forme du récit antérieur qui s'est terminée par cette alliance et puis par l'installation de Jacob dans la région de Mahanaïm, Soukhot, Penuel, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, nous avons en effet là un élément, donc peut-être même ce tas de pierres, c'est peut-être un élément lié d'une façon ou d'une autre, à une frontière entre les populations israélites et araméennes vivant à proximité l'une de l'autre en Transjordanie. Donc, ça aurait peut-être une sorte de frontière qui est marquée peut-être par Mitzpah. Mitzpah, qui, là, c'est là où je mets la petite étoile. Mitzpah, c'est un autre Mitzpah en Bethléem, mais ce n'est pas celui-là. Mitzpah, c'est un nom assez courant, parce que Mitzpah, ça veut dire quoi ? Mitzpah, c'est simplement le guet, le lieu de guet. Donc, c'est souvent des lieux qui sont assez élevés, comme ce Mitzpah-là, qui est probablement Tel El Masfa, à 1200 mètres, c'est donc un des endroits les plus hauts sur la montagne transjordanienne. Et donc c'est peut-être là, puisqu'on donne aussi cette étymologie-là, qu'on a d'une certaine manière tracé, on ne trace pas, mais on a dit ça c'est un peu le lieu où il y a la frontière entre les Israélites et les Araméens dans le Galaad, puisqu'on joue aussi avec le nom du Galaad. Donc, qui, en effet, se fréquentent, mais qui essaient quand même de définir un peu leurs frontières. Et du coup, peut-être, cette ancienne tradition, elle a été peut-être non pas véhiculée au début à Bethel, mais à Penuel, puisque Penuel, nous allons le voir, Penuel est un peu rajouté au changement de nom de Jacob, mais c'est apparemment un sanctuaire qui peut être plus ancien. Et comme Bethel, vous avez de nouveau le El, donc, mais on reviendra là-dessous, Penuel face de El. Donc voilà une frontière possible qu'on peut... Hop, qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je fasse un stage de... Voilà. Bon, mais je crois que je ne vais pas m'aventurer. Encore, ça va encore faire des murs. Non. Bon, alors, j'arrête. Maintenant, ça marche, mais maintenant, je ne sais plus comment... Alors, écoutez, je suis désolé. C'était pas prévu. S'il y a un régisseur qui est disponible, je serai prenant. Alors, hop. Je ne sais plus comment. Allô, il y a quelqu'un ? Non, il y a quelqu'un qui arrive. Désolé. Qu'est-ce que je fais ?
Merci beaucoup. J'avoue que je ne sais pas.
Ah, magnifique. Très bien. Merci beaucoup.
La bonne ?
Non, mais je vais la retrouver. Voilà, et j'utilise plus ce truc. Voilà, alors... Donc, vous voyez la frontière. Et voilà, la vue sur Mitzpah à partir de l'Ouest. Donc, après ce récit de la conclusion de l'Alliance, il a été révisé. On a rajouté le verset que Laban appelle ce lieu Yeka Sahaduta pour montrer que, en effet, Laban parle araméen, donc c'est un glossateur qui voulait montrer qu'il sait lui aussi l'araméen, et puis donc il a rajouté ça. Et puis on a ajouté aussi cette idée que si tu affliges mes filles, tu prends des femmes en plus de mes filles, c'est tout autre chose, parce qu'on a un traité de frontières et tout d'un coup on parle de la protection des filles, donc c'est une sorte de traité matrimonial qu'on a ajouté et qui joue plus de rôle ensuite. Et puis également tout un travail sur les divinités auprès de quelles on joue. Donc originellement, Laban et Jacob ont prêté serment chacun auprès du dieu de leur clan respectif. Et puis ensuite, un rédacteur voulait quand même montrer que c'est le même dieu, donc c'est pour cela qu'il a rajouté dieu de ses pères. Mais il y a encore le texte ancien où on a vu que Jacob prête serment par la terreur des opères Isaac. Je vous ai montré la semaine dernière que c'est en effet un terme d'une... Voilà, c'est pas une divinité en soi, mais c'est un terme qu'on peut donner à un dieu protecteur qui, en fait, sème la terreur auprès des ennemis. Voilà, donc maintenant, nous allons avancer comme Jacob. Laban part, donc nous l'avons vu, et puis Jacob, il est allé de son chemin. Alors, des messagers de Dieu ou des anges tombèrent sur lui. Jacob dit, quand il les vit, « Ceci est un camp divin. » Il appela le nom de ce lieu « Mahanaïm ». Mahanaïm, tel que c'est vocalisé, il faut traduire « deux camps » ou « deux campements ». C'est un duel. Jacob envoya des messagers devant lui, vers Ésaü, son frère, vers le pays de Séir, la campagne d'Édom. Il leur demanda, « Ainsi vous parlera à mon seigneur, à Ésaü ?» Ainsi parle ton serviteur Jacob, avec Laban j'ai séjourné, je suis resté jusqu'à maintenant, j'ai obtenu des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs, des servantes, et je l'envoie annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagères reviennent vers Jacob, disant, nous sommes allés vers ton frère, vers Ésaü. D'ailleurs, il vient à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. Alors Jacob eut très peur, il fut angoissé. Il sépara le peuple qui était avec lui, le petit et le gros bétail, les chameaux, en deux camps. Il dit, si Ésaü vient vers un des camps et l'attaque, le camp restant pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a dit, retourne vers ton pays, vers ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit par rapport à tous les actes de loyauté et toute la fidélité avec laquelle tu agis envers ton serviteur. En effet, avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain. Est-ce qu'on a entendu parler qu'il a traversé le Jourdain? Pas vraiment. Et maintenant, j'ai deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il vienne me frapper, comme on frappe une mère sur ses fils. Et toi, tu as dit, je te ferai certainement du bien, je rendrai à ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne compte pas tellement il est nombreux. Il passa cette nuit là-bas. Il prit parmi ce qui était venu en sa possession un présent pour Ésaü son frère. Des chèvres, 200, des boucs, 20, des brebis, 200, des béliers, 20, des chamelles avec leurs petits, 30, des vaches, 40, des taureaux, 10, des ânes, 20, des ânes, 10. Il donna ça dans la main de ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et dit à ses serviteurs, « Traversez avant moi et mettez une distance de troupeau à troupeau. » Il commanda au premier, « Lorsque Ésaü, mon frère, vient te rencontrer, il te demande à qui es-tu, où vas-tu, à qui sont ces animaux qui sont devant toi. Tu diras à ton serviteur, à Jacob, c'est un présent envoyé pour mon seigneur, pour Ésaü, et voici qu'il se trouve après nous. » Il commanda aussi au deuxième, aussi au troisième, et aussi à tous ceux qui marchaient après les troupeaux. « Selon ces mots, vous parlerez à Ésaü lorsque vous le trouverez. Vous direz aussi, « Voici ton serviteur Jacob est après nous. » Il disait, « J'apaiserai sa face par un présent qui ira devant moi, et après cela, je verrai sa face. Peut-être il relèvera ma face. » Le présent passa devant lui, devant sa face. Quant à lui, il passa cette nuit dans le camp. Vous avez déjà entendu des mots qui reviennent toujours, notamment la face. Ça, il faut le garder déjà un peu en mémoire. Donc, en fait, c'est un texte qui est bien organisé. Au début, on a les messagers de Dieu, le camp de Dieu. Tout à la fin, c'est le camp de Jacob. L'envoi des messagers de Jacob avec le retour en disant il arrive avec 400. Ça correspond en fait à l'envoi des serviteurs vers Israël, vers Ésaü avec les cadeaux. La préparation des deux camps en vue de la rencontre correspond à la préparation des présents en vue de la rencontre avec Ésaü. Et au centre, la seule prière que nous avons dans l'histoire de Jacob. C'est presque aussi la seule prière dans toute l'histoire des patriarches. Ils ne prient pas beaucoup, les patriarches. Ils parlent beaucoup avec Dieu, mais ils le font autrement. Donc, les mots-clés, je vous ai déjà dit, la face, hein, donc la face d'Ésaü, la face de Jacob, mais après, on aura aussi la face de Dieu, Pianouel, hein, et aussi, évidemment, le nom de Machane, le camp, hein, avec lequel on joue aussi et qui, en effet, est attesté cette fois. Cette fois, bon, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Donc, il y a des gens qui ont déjà observé que certains passages sont un peu structurés et certains mots-clés, parfois, bon, après, ça dépend évidemment toujours des découpages, mais parfois des découpages qui font du sens. On trouve parfois ces mots-clés, ces Leitwörter, comme disait Martin Buber, on les trouve en fait de manière tout à fait réfléchie. Et puis, on observe aussi autre chose, serviteur. Ton serviteur. Donc Jacob, qui est maintenant présenté comme un homme très riche, il n'a pas seulement le petit bétail, hein, il a tout, hein, on va le voir, il se présente constamment comme étant le serviteur de Ésaü. Donc au niveau de la diachronie, on peut voir d'abord que la prière est insérée dans le texte. Texte ancien qu'on ne sait pas, de prière, parce que vous avez deux fois, il dit au verset 9 et au verset 10, alors qu'il n'y a pas de nécessité de réintroduire. Donc on voulait réintroduire cette prière exprès. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, vous pouvez très bien passer du verset 9 au verset 14. Hein. Si Ésaü vient vers un des camps, l'attaque, le camp restant pourra s'échapper, et il passa cette nuit là-bas. Vous n'avez pas besoin d'une longue prière. Hein. Donc la prière est certainement insérée. Et puis après, on peut se poser la question aussi, tout cet envoi des présents. Parce qu'on a en fait, au verset 14 et au verset 21, deux fois cette répétition, c'est ce que les Allemands appellent la Wiederaufnahme, la reprise. Il passa cette nuit là-bas, hein, et 22, il l'avait passé cette nuit là-bas. Donc dans le texte actuel, on a l'impression, en fait, il s'agit probablement de deux nuits. Hein, parce qu'il passe à la nuit, après on dit, il passe à la nuit. Ou qu'est-ce qu'on a comme alternative? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'était deux nuits, normalement, bah, on a toujours quelque chose. Le matin, il se leva, il fit ceci, cela. Mais là, on a simplement, il passe à la nuit, et puis il prépare les présents. C'est un peu court. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dites c'est un ajout, hein, et on a marqué la fin de l'ajout en répétant « il passa la nuit là-bas ». Je vous ai déjà montré, c'est une manière pour les rédacteurs de travailler. Ou alors, vous dites « c'est une sorte de récit de rattrapage ». Alors, récit de rattrapage, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on donne d'abord une information et qu'on revient en arrière pour donner des informations. Donc, je vous donne un exemple qui vient de l'histoire de Joseph. Donc, vous vous souvenez, les frères qui ne sont pas contents parce que son père, le préfet, il lui donne une magnifique tunique. Et après, il y a l'histoire des rêves. Et donc, si vous lisez le verset 5, vous avez « Joseph eut un songe et qu'il fait connaître à ses frères et il a haïr encore davantage. » Mais on n'a pas le contenu du rêve. C'est seulement après qu'il va raconter le contenu du rêve, et puis après, à la fin, il le haïr encore davantage pour ses songes et pour ses propos. Donc on peut dire là aussi que quelqu'un voulait d'abord dire, en fait, le plus important, c'est que le frère le haïsse, et après on donne l'information du contenu du rêve. Et puis on revient en fait au point de départ en répétant, il le haïr encore davantage. Donc, c'est possible, mais est-ce que c'est la même chose en Genèse 34? Parce que pourquoi c'est important de dire qu'il resta dans le camp? Donc là, on a peut-être quand même plus l'idée que c'est une insertion. Maintenant, les cadeaux, qui on va voir, ne vont plus jouer des rôles importants. Et puis, un autre problème encore, c'est qu'au verset 4b, Jacob envoie des messagers vers Ésaü à Séhir. Mais personne ne nous a raconté que Ésaü s'est installé à Séhir. Personne ne le sait. Mais Jacob le sait. Donc, du coup, est-ce que c'est là aussi un ajout d'un glossateur qui était un peu impatient de dire, mais voilà, il était déjà à Séhir? Ça, c'est possible. Donc, du coup, on peut reconstruire un récit ancien. Il n'y avait pas la prière et probablement pas non plus le deuxième convoi avec les cadeaux. Alors, revenons à Mahanaïm, donc ce camp des dieux où, en effet, Jacob arrive à Mahanaïm et puis il se rend compte qu'il y a des messagers de Dieu qui tombent sur lui. En fait, c'est la même racine que vous avez en Genèse 28, lorsque Jacob arrive dans ce lieu de Bethel, il tombe sur ce lieu. Donc il est clair que ce texte est construit en parallèle à l'histoire du songe de Bethel. Vous vous souvenez de l'histoire du songe de Bethel? Vous retrouvez les anges ou les messagers de Dieu, cette racine paga tombée sur quelqu'un, un constat de Jacob qui dit « c'est un camp de Dieu », comme il avait dit avant, c'est une maison de Dieu, et aussi le fait qu'il donne un nom à ce lieu. Donc c'est vraiment très en parallèle. Donc l'auteur de Genèse 28 a probablement, en effet, connu Genèse 28 et a voulu en fait encadrer d'une certaine manière le temps de Jacob chez Laban par ce passage avec deux lieux où il y avait des messagers de Dieu qui se trouvent. Donc, camp de Dieu, alors, tel que se vocalisait, c'est un duel. Donc, en fait, Mahanaïm, deux camps, il faut se poser la question. Certains disent que ce n'est peut-être pas la bonne signification. Peut-être à l'origine, c'est plutôt un locatif. C'est possible, mais ce qu'on peut dire quand même, en Genèse 32, avant même les Massorètes, le nom a été compris comme un duel. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une allusion à Mahanaïm avec les deux camps que Jacob va mettre en place. Mahanaïm, donc, le double camp, et le double camp de Jacob. On a encore, dans le livre des Chroniques, une fois, un camp de Dieu, au singulier, Mahane Elohim, pour dire comment le camp de David s'agrandit. Ça devient comme un camp de Dieu. Mahanaïm, c'est un lieu assez bien attesté dans des textes bibliques. Ça se situe dans la tribu de Gad, selon les listes du livre de Josué. C'est un lieu de refuge lors des conflits dynastiques, Ishbaal contre David ou David quand il doit s'enfuir de Absalom. Donc c'est plutôt en fait des textes qui remontent aux origines de la royauté. Et Mahanaïm est aussi attesté dans la liste des villes que Shishak aurait conquis ou détruit, donc pharaon du Xe siècle qui fait une campagne en Palestine. Donc là, on a peut-être aussi une tradition assez ancienne qui peut peut-être être aussi liée à la première tradition sur Jacob. Alors, où est-ce qu'il faut identifier le site? Je ne vais plus prendre mon pointeur. Bon, je vais faire des bêtises. Je vous le montre. Alors, il y a deux possibilités. Donc, vous pouvez soit l'identifier à Tel Hechai, qui est à 4 km à peu près du Yabok, ou à Touloul El Dahab, la colline de l'argent, qui est plus il ne faut pas faire des bêtises. qui est plus probable, parce que c'est un nom en fait qui regroupe deux collines qui sont localisées sur les deux collines du Yabok. Et la colline à l'ouest, Tel El Dahab El Garbi, là on a trouvé en fait une agglomération importante protégée par des murs de casemates avec des phases d'occupation qui vont en fait du bronze jusqu'à l'époque perse hellénistique, avec aussi une population importante donc à l'époque du fer. Et puis l'autre côté, vous avez le Tel El Dahab El Sharqi, ou un fort de l'époque hellénistique, mais aussi une poterie de l'époque de fer. Donc, si vous regardez la colline ouest, vous voyez la vallée du Yabok. Ben, maintenant, il y a une rue là qui passe, une route. Mais c'est en effet un endroit qu'on peut tout à fait identifier, imaginer comme étant en effet Mahanaïm. En plus, on a trouvé des dessins incisés dans la pierre, et ce qui est très drôle, mais on va pas faire ça. Vous avez une femme avec une chèvre. Donc il y a des gens qui ont dit, ah, vous voyez, là c'est Léa ou c'est Rachel avec sa chèvre quand ils étaient à Mahanaïm, donc on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais ça montre quand même qu'il y avait quelque chose, certains disent peut-être un sanctuaire ou un endroit quand même important, parce que des tels dessins, vous les trouvez pas partout. Donc c'est peut-être en effet c'est Touloul El Dahab qu'il faut identifier à Mahanaïm. Et ensuite, donc, Jacob va envoyer des messagers. Je vous ai déjà dit, envoyer des messagers jusqu'à Séir, ça fait long. Il faut qu'il attend au moins 5-6 jours. Donc il faut imaginer quand même que Ésaü est plus proche déjà. Alors, je vous ai dit, donc, personne ne nous a raconté que Ésaü est à Séir. Après, on peut se dire aussi, mais en fait, pour les auditeurs qui font le lien entre Ésaü, Édom, Séir, c'était peut-être une évidence à un moment que Ésaü devait être à Séir, même si on ne le raconte pas. Peut-être que ce n'était pas nécessaire de le raconter. Mais c'est vrai que nous n'avons pas, dans le texte actuel de l'histoire de Jacob, nous n'avons pas d'histoire où Jacob s'installe à Séir. Soit c'est présupposé, ou soit on l'a supprimé. On a simplement tout à la fin, au chapitre 36, dans le texte sacerdotal, là on dit en effet que Ésaü s'installe à Séir. Mais avant le texte sacerdotal, on n'a pas d'autres informations. Donc après, quand il parle, « Ainsi vous parlez à mon Seigneur, à Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob », ça c'est tout à fait le style épistolaire du Proche-Orient ancien. C'est-à-dire que vous envoyez un messager qui fait le facteur, en fait qui transmet un message soit écrit sur une tablette, ou simplement il apprend par cœur et il va le répéter. Mais il va répéter à la première personne. « Ainsi parle ton messager, Jacob », moi, je suis... Donc c'est pour cela aussi que vous comprenez pourquoi, en fait, les prophètes, dans les prophètes, Yahvé parle toujours à la première personne. Parce que ça commence toujours, « Ainsi parle le Seigneur hein ». C'est en fait la reprise de cette formule du messager. Hein, une fois c'est annoncé, « Ainsi parle le Seigneur », on peut parler à la première personne, en fait. Donc, les richesses de Jacob, je vous ai déjà dit, Jacob, au début, il n'avait que du petit bétail. Maintenant, il a de tout. Il a de tout. Il a deux bœufs, du petit bétail, des serviteurs des sermentes, des ânes, des chameaux. Et si vous regardez, je vous l'ai mis en différentes couleurs, vous voyez, en fait, les parallèles les plus proches, c'est les richesses d'Abraham, qu'il accumule en Égypte, et les richesses de Job. Donc là, on met Jacob au même niveau que ces personnages. Il veut trouver grâce aux yeux d'Ésaü, c'est une expression assez courante. Avant le déluge, on dit que Noé trouve grâce aux yeux de Yahvé. Abraham et Lot trouvent grâce aux yeux de Yahvé également. Joseph aux yeux de son maître, mais aussi Jacob aux yeux de Joseph, trouvé grâce aux yeux. Normalement, c'est toujours le supérieur qui, en fait, accorde ou auprès duquel on cherche de la grâce. Chen. Alors, le retour des messagers qui disent « Nous sommes allés » et d'ailleurs, il vient. C'est le même motif, ou disons la même formulation que nous avons dans le livre des Nombres, quand Moïse envoie des messagers pour explorer le pays. Ils reviennent, ils disent aussi « Nous sommes allés hein, dans le pays. D'ailleurs, c'est un pays où coule le lait de miel. D'ailleurs, il vient à ta rencontre. » Donc, il n'y a pas d'allusion dans le récit comment Ésaü a réagi. Donc, les messagers, ils se contentent simplement de dire « Voilà, il vient à ta rencontre. Hein, » avec 400 hommes. 400 hommes, c'est quand même déjà une force un peu impressionnante. On le retrouve pour la milice de David, notamment, ou pour les 400 prophètes de Baal, donc, non pas Baal, de Yahvé, en 1 roi 22, donc c'est un nombre assez important. Et Jacob va, en effet, interpréter cette venue dans un sens qu'il vient pour m'attaquer, dans un sens belliqueux, et mettre en place donc cette stratégie où il sépare la caravane en deux. Donc certains disent que cette stratégie, elle n'a pas beaucoup de sens, c'est une glose, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, les deux camps, comme je vous ai dit, ça fait un peu le pendant des deux camps divins qu'il avait vus au début. Et vient alors cette grande prière dans les versets 10 à 13. C'est, comme je vous ai dit, la seule prière dans l'histoire de Jacob. Une prière qui cite un peu de tout, des textes des histoires d'Abraham, de l'Exode, de la conquête. Ça rappelle des prières de David, de Salomon, de Jérémie, des grandes prières aussi de supplication en dehors de la Bible hébraïque, dans le livre des Maccabées ou dans Tobie. Donc déjà ça, ça vous montre que c'est vraiment une insertion très très récente dans l'histoire de Jacob. Ça commence par « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac », qui est identifié ensuite à Yahvé. Donc là, vous l'avez déjà vu, c'est une manière en fait de montrer qu'il y a une ligne généalogique qui va d'Abraham en passant par Isaac jusqu'à Jacob. Vous vous souvenez que ces généalogies ne sont pas originelles, elles sont construites pour mettre ces figures dans un lien. Et donc, une manière de le rappeler, c'est justement parler du Dieu du Père, Abraham, d'Isaac, etc. Et la prière, en fait, est encadrée par la citation de deux promesses divines. Toi, tu as dit, retourne vers ton pays, et tu as dit, je rendrai à ta descendance comme le sable de la mer. En fait, c'est cet encadrement qui, en fait, fait ressortir deux thèmes. D'accord, merci. Qui fait appel à deux thèmes, à savoir le retour dans le pays, et la multiplication. À quel moment c'est important ? C'est important à l'époque perse, où on se trouve en exil, où on se trouve dans la Gola, hein, et le retour du pays. Donc Jacob devient, comme Abraham, quelqu'un qui doit retourner dans le pays. Et la multiplication de la descendance, à un moment où la descendance justement est décimée, on ne sait pas comment l'avenir du peuple va se faire. Donc en fait, ces deux rappels qui encadre la prière, se comprend fort bien dans ce contexte. Voilà, ces deux thèmes sont accompagnés par une citation, mais on ne sait pas où l'a pris cette citation, « Je te ferai du bien », la racine yatav ou hifil. Mais si vous lisez l'histoire des patriarches, il n'y a aucune promesse que Dieu fera du bien. Il fait beaucoup de choses. Je t'accompagnerai, je serai avec toi, je te donnerai le pays, mais je te ferai du bien. Ça ne se trouve pas dans l'histoire des patriarches. Ça se trouve ailleurs, ça se trouve dans les textes des prophètes de l'exil après l'exil, dans les psaumes du Second Temple, et aussi dans le Deutéronome. Et c'est là, en fait, on a les parallèles les plus proches, parce que Yahvé était content de vous faire de bien et de vous multiplier, ou Yahvé te faire de bien et te rendre nombreux. Donc, je pense cette idée du faire du bien est reprise, en fait, des malédictions et des bénédictions du Deutéronome. Donc, vous avez une combinaison, en fait, entre la tradition patriarcale et la tradition du Deutéronome. Ensuite, la prière continue avec quelque chose que vous connaissez. « Ah, mais je suis trop petit. » Là, c'est une prière. Parfois, c'est utilisé aussi pour refuser de faire quelque chose. Jérémie dit « Je suis trop petit, je ne peux pas faire le prophète. » Mais David et Salomon, quand ils commencent leur prière aussi, ils insistent de manière d'auto-humiliation. « Je suis trop petit. » Mais ce qui est intéressant aussi, si on est dans l'intertextualité, vous vous souvenez, quand on a caractérisé Jacob et Ésaü, on les a caractérisés comment ? Comme Gadol et Katan. Et là, ça répond. En fait, ça rappelle le chapitre 27. Je suis petit, donc même en ayant volé la bénédiction, je suis petit. Donc ça fait encore allusion pour le public au petit Jacob qui a volé la bénédiction du grand Ésaü. Le bâton, ce n'est pas le bâton de Moïse, ce n'est pas le même terme. Mais c'est le terme qui est utilisé au chapitre 30 lorsque Jacob, vous vous souvenez, coupe des branches. Il coupe des branches pour manipuler la couleur du petit bétail qu'il va mettre bas. Et on le retrouve aussi dans le bâton que les Hébreux doivent prendre au moment où ils vont sortir d'Égypte, et aussi dans le bâton de David lorsqu'il affronte Goliath. Donc il y a deux mots différents. Comme je vous ai dit, ce Jourdain, c'est un peu curieux, c'est « Hayarden Hazé », donc c'est avec un démonstratif. Et puis on n'a jamais entendu parler que Jacob a traversé le Jourdain. Logiquement, il aura dû le faire, mais il n'y a aucun récit qui le raconte. Donc ça vient sans doute aussi du Deutéronome où la traversée du Jourdain est en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, l'acte fondateur pour entrer dans la terre promise. Exactement. Voilà, donc je pense là, on met Jacob un peu comme le précurseur de Josué et des Israélites. Jacob et sa famille, on prépare déjà que Jacob va devenir Israël parce que bientôt il va être Israël. Donc, mais ici aussi l'idée, donc on a l'impression qu'il se trouve devant le Jourdain, mais logiquement c'est pas tout à fait ça, parce que nous avons vu que Mahanaïm, c'est quand même un peu loin du Jourdain. Donc on s'inspire du Deutéronome pour dire voilà, on est à l'entrée de la terre promise, et on fait une sorte de, comme un peu avec David, on fait une allusion en fait à deux époques, à l'époque où on n'était qu'avec le bâton, et maintenant Jacob qui a deux camps et qui est prêt en fait à entrer dans le pays. Avec un seul bâton, j'ai traversé le Jourdain, donc ça fait allusion du coup au départ, mais en même temps le Jourdain évoque évidemment aussi le retour d'une certaine manière. Comme le bâton de David montre aussi un peu que dans les yeux de Goliath, tu viens avec ton bâton, t'es rien. Donc c'est un peu ça, je n'avais que ce bâton et ce qui est le même mot, justement. Donc je pense là, il y a peut-être une intertextualité qui est tout à fait voulue. Donc là, maintenant, il demande d'être arraché, délivré de la main de son frère, car j'ai peur de lui. Cette racine arrachée, natsal, rappelle une autre utilisation de la racine, parce qu'au chapitre 31, c'est Dieu qui a arraché les richesses de Laban pour le donner à Jacob, vous vous souvenez. Et puis, arraché de la main des ennemis, c'est un terme technique presque ou un terme très fréquemment utilisé dans les psaumes de complainte. Donc, Ésaü, dans cette prière, il est vraiment l'ennemi. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi qui va toujours être un peu en sourdine. Donc, il y a la réconciliation, mais... Et puis, vous savez, après, que dans le judaïsme, Ésaü est resté l'ennemi. On l'a identifié à l'Empire romain, on l'a identifié à toutes sortes d'ennemis. Et donc, on a pu lire aussi dans le judaïsme cette prière, en fait, comme étant « Arrache-moi de tous mes ennemis », donc Ésaü en étant le symbole. C'est un contexte clairement guerrier, avec cette expression horrible, mais qui est de telle actualité, qu'il me frappa comme on frappe la mère sur les enfants, la mère qui veut protéger les enfants, qui a abattu. Donc, comme le dit le livre d'Osée aussi, au jour du combat, où on écrase la mère sur les fils ou sur les enfants. Voilà, donc, oui, donc là, on passe vraiment dans un contexte très, très guerrière. Vers la fin, donc, Jacob, comme Moïse, en fait, comme Jérémie aussi, rappelle à Dieu sa promesse, nous l'avons déjà vue. Et maintenant, je vous ai dit, c'est probablement un ajout, maintenant, en fait, il va trouver une autre stratégie, donc sortir de l'affrontement, on va donner des présents, des cadeaux. Donc au lieu d'affronter, on va essayer d'amadouer quelqu'un en lui faisant des concessions. Donc ça, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans un conflit, vous faites quoi ? Vous faites l'affrontement ou vous négociez ou vous allez amadouer. Ben, c'est maintenant ce qu'il utilise. Il veut changer l'attitude hostile des yeux par des présents. Et le terme qu'il utilise ici, c'est mincha, un terme très fréquent dans la Bible, plus que 200 fois, qui est d'abord le présent. Plus particulièrement, un tribut qu'on donne à un supérieur, un cadeau d'apaisement. Mais ensuite, ça peut aussi devenir une sorte d'offrande. Parce que la première fois qu'on trouve mincha dans la Bible, c'est lorsque Caïn et Abel offrent à Yahvé une mincha. Ce n'est pas encore très bien, mais chacun, en fait, offre un cadeau à Yahvé. Et ensuite, dans les textes sacerdotaux, mais ce n'est pas le cas ici, mincha, comme l'a très bien montré Alfred Marx, qui est là aujourd'hui, que je salue, je ne le vois pas où. Mais... Voilà. Donc, je vous conseille ce livre sur les offrandes végétales. Mincha devient après une offrande qu'on appelle souvent une offrande végétale, qui doit accompagner, selon certains textes, des sacrifices animaliers. Donc, le terme mincha est utilisé ici comme un cadeau, mais il y a peut-être aussi un petit jeu de mots entre mincha et machane, le camp. C'est peut-être pas totalement par hasard. Et après, nous avons, contrairement là aussi, souvenez, quand il a fait les deux camps, il avait dit il y a des bœufs, mais il n'y avait rien qui était énuméré. Maintenant, c'est énuméré et on arrive à 550 bêtes, quand même un nombre déjà assez important. Bon, évidemment, on peut s'amuser de savoir combien ça coûte. C'est difficile de savoir. Les relations entre femelles et mâles sont précisées. Pour les petits bétails, 10 à 1. Pour le gros, 4 à 1. Pour les ânes et les ânes, 2 à 1. Alors peut-être, en effet, ça reflète les pratiques de l'élevage animalier de l'époque. Encore que les ânes, c'est un peu étonnant. Donc, on ne sait pas tous les détails. Après, aujourd'hui, je pense on a des proportions plus... pour les bêtes mâles, beaucoup moindres. Souvent, on dit 1 pour 20 ou 25. Mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un certain savoir ou qui s'amuse, en fait, à le prétendre. Ces envois, donc ces présents sont envoyés par Ésaü avec plusieurs délégations, plusieurs troupeaux, peut-être selon les différentes espèces d'animaux, et donc vis-à-vis de ce serviteur, Jacob va appeler Ésaü son frère, mais en parlant, disons, en donnant l'ordre de ce qu'il faut dire, il reste en fait toujours le serviteur et Ésaü le seigneur. Évidemment, il faut lire ça aussi dans le contexte de Ésaü 27, de Genèse 27, où justement c'était le contraire, où on disait, voilà, la bénédiction, ça va faire que Jacob va être le Seigneur, et là, c'est lui qui se présente en fait comme le serviteur. Cette histoire où on fait précéder son arrivée par des cadeaux, vous avez un parallèle dans l'histoire de David et Abigail en 1 Samuel 25, où Abigail qui veut amadouer David, qui s'est énervé contre son mari, vous vous souvenez peut-être, qui deviendra aussi une des femmes de David. Et l'on voit aussi d'abord plein de messagers pour ensuite arriver après les cadeaux qui sont appelés là les beraka, des cadeaux de bénédiction pour amadouer David, pour apaiser la face de David. Alors ici, c'est David, c'est Jacob qui veut apaiser la face de son frère. Apaiser la face, c'est une expression qu'on a dans d'autres langues, en acadien, c'est la même chose. La racine qui perd, ou piel, c'est l'action en fait d'amener quelqu'un qui est en colère à se calmer et à renoncer en fait à une action violente. Comme dans le proverbe, la fureur du roi, c'est des émissaires de la mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Donc on est là dans un contexte un peu de la cour, et aussi l'expression « élever la face ». Qu'est-ce que c'est « élever la face » ? C'est sans doute les audiences royales, où quelqu'un se baisse et le roi fait un signe, comme ça, vous pouvez élever votre face. Donc, on a là de nouveau ces idées de vassalité ou de inférieur qui demande une grâce. Et évidemment, comme nous l'avons dit, la répétition du mot « face » va préparer la rencontre inattendue à Penuel, où Jacob verra la face de Dieu. Voilà, c'est maintenant qu'on arrive à ce combat nocturne. Il se lève à cette nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 fils et traversa au gué du Yabok. Il les prit, les fit traverser le fleuve et fit traverser tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il n'emporta pas sur lui. Il frappa le creux de sa hanche, et le creux de la hanche de Jacob se déboîta alors qu'il lutta avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Ça vous fait penser à des films de vampires, non ? Quand les vampires doivent partir, c'est un peu ça. Il dit, « Je ne te laisserai pas, sauf si tu me bénis. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Jacob. » Il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi savoir ton nom. » Il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Jacob appela le nom de Penuel, les Massorètes disent ici, « Peniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. » Le soleil se leva alors qu'il passa Penuel en boitant à cause de sa hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent plus le tendon ischiatique qui est sur le creux de la hanche jusqu'à ce jour, car il avait frappé le creux de la hanche de Jacob dans le tendon ischiatique. Voilà, donc vous avez déjà le début de la cache-route ici. C'est un texte, évidemment, je pense, après l'Akeda avec le sacrifice d'Isaac, c'est sans doute un des textes les plus commentés de l'histoire patriarcale, aussi le plus représenté. Et on représente ça comment ? C'est toujours l'ange. Est-ce que vous avez entendu l'ange ici ? Non. Alors pourquoi ? Pourquoi on a décidé que ce soit l'ange ? On a décidé ça à cause de Osée. Osée 12, dont je vous ai déjà parlé. Osée 12, parce qu'en Genèse 32, on ne parle pas du tout d'un ange. Osée 12, c'est le texte que je vous ai déjà présenté, qui résume en fait toute l'histoire de Jacob. On a au verset 4, « Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta, dit le texte massorétique, avec un ange, et il l'emporta. » Alors là, bon... Je ne vais pas aller dans le détail. On peut imaginer qu'à l'origine, c'était il lutta avec il, hein, et puis un glossateur qui a mal compris ou qui trouvait quand même un peu compliqué que Jacob lutte avec il ou avec un dieu, hein, a transformé en fait le texte ou a rajouté malak, hein, parce que le il, peut-être il a mal compris, il a pensé peut-être c'est une préposition, mais peu importe les détails. Mais en fait, les tableaux que vous connaissez, ils viennent de Osée 12, ils ne viennent pas vraiment de l'histoire de Genèse 32. Donc là, vous avez Delacroix, où en fait cette lutte elle est intégrée dans une sorte de scène de nature. Et puis vous avez les camps qui passent, donc il n'est plus seul là, il n'est plus seul, il y a plein de monde. Rembrandt, là, il y a tout un débat. Est-ce que vous trouvez que l'ange est féminin ou pas? Alors, c'est une sorte de... c'est plus tellement un combat, là, c'est plutôt un enlacement. Hein, mais c'est très intéressant parce que ça reflète aussi toutes les lectures que vous pouvez avoir de ce texte. Après, chez des plus contemporains, alors là, une femme, c'est clairement une femme, hein, chez Baudry. Alors, chez Bonnat, c'est un peu homoérotique, là, donc, parce que là, alors ça, c'est deux hommes, mais là aussi, le combat, il est, bon, il est un peu chargé. Donc, je ne peux pas, malheureusement, vous faudrait faire tout un cours sur les lectures psychanalytiques et d'autres qu'on a pu faire de ce texte, mais en fait, j'ai cherché, on ne trouve presque pas de représentation où l'adversaire de Jacob n'a pas des ailes. Hein. Donc l'ange, donc vous voyez parfois comment l'histoire de l'art aussi peut nous influencer, parce que même il y a des Bibles où on a comme titre en Genèse 32 le combat avec l'ange. Mais si vous lisez attentivement le texte, il n'y a pas d'ange, il y a Ish. Hein, Ish, c'est quelqu'un. Hein, et après, Jacob va l'interpréter comme étant Dieu. Ce récit, en fait, a inspiré un autre récit que vous connaissez peut-être. C'est Exode 4 où Moïse est sur le chemin de retour de Madian vers l'Égypte. Yahvé l'aborde, il cherche à le faire mourir. Tsipora prend un silex, coupe le prépuce de son fils et touche à ses pieds dans son sexe en disant « Tu peux voir un époux de sang ». Alors il le laissa et il avait dit à cette occasion « Époux de sang » en ce qui concerne la circoncision. Donc vous avez beaucoup de thèmes qui sont parallèles. C'est le héros est surpris par un être divin au moment où il retourne vers son lieu d'origine. Les deux attaques ont lieu pendant la nuit. L'attaquant touche la hanche de Jacob et en 4, Exode 4 et Tsipora touche les pieds de Moïse. Les deux récits vont aboutir à une transformation du héros. Jacob devient Israël, mais il boite aussi. Et Moïse échange par rapport à la circoncision et il devient un époux de sang. Et à la suite, et ça c'est intéressant aussi, à la suite, en fait, vous avez à chaque fois une rencontre avec le frère. Hein, Jacob avec Ésaü et Moïse avec Aaron. Et dans les deux cas, c'est le même verbe. Et chaque fois, cette rencontre se passe de manière très, très bien. Donc, le texte est très bien structuré. Vous avez une chronologie qui va de la nuit à l'aurore jusqu'au lever du soleil. Et vous avez une sorte de chiasme, la nuit au début, le lever du soleil à la fin. Le combat avec un homme qui est identifié ensuite comme étant Dieu, avec le nom de Penuel, face de Dieu. Jacob qui refuse de laisser partir l'homme et qui demande une bénédiction, c'est l'homme ou l'être va refuser de dire son nom, il va bénir Jacob. Et au milieu, et je pense que c'est vraiment la partie la plus importante du récit, c'est ce changement de Jacob qui devient Israël. Donc, vous pouvez aussi faire des parallèles avec l'histoire de Bethel, parce que, de nouveau, on est dans un lieu de passage. La rencontre avec le divin, comme en Exode 4, c'est de nouveau la nuit. Il y a aussi le nom divin. En Genèse 28, Yahvé va dire « C'est moi Yahvé, Ani Yahvé ». Alors, en Genèse 32, il va dire « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom ?» C'est ton opposition. Jacob va donner un nom au lieu, au Macom, dans les deux cas. Beth-El, Penuel, hein, donc chaque fois avec le nom El. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que Genèse 32, en fait, c'est aussi un songe? Parce qu'en Genèse 28, on avait un songe. Mais le texte ne l'indique pas. Vous pouvez avoir cette interprétation, mais le texte... Bon, peu importe, à la limite, mais c'est en fait un combat qui va transformer Jacob. Donc, peut-être, est-ce que c'est un vrai combat? Est-ce que c'est... Parce que c'est la nuit, est-ce qu'il rêve? Est-ce que les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effacent un peu? Je vous ai mis là le tableau de Gauguin. Ça, il s'est appelé vision après le sermon. Mais là, l'idée, c'est plutôt c'est ces femmes qui sortent de la messe avec leur costume breton qui voient ce combat. Après, je ne connais pas tout le détail. Je sais que Gauguin voulait offrir ça au curé de Pont-Aven et le curé a refusé. Il avait tort, apparemment, mais enfin bon. Voilà. Donc, regardons maintenant très, très brièvement encore un peu la diachronie, donc il y a quelques rajouts, surtout on ne sait pas très bien. On a dit d'abord que le texte, l'ensemble du texte interrompt en fait l'histoire de Jacob et Ésaü, parce qu'au chapitre précédent, il a tout préparé, et au chapitre 33, Ésaü arrive. Donc ça fait une interruption. Mais est-ce que pour autant il faut enlever ce texte? Je ne pense pas, parce qu'en fait, ce texte montre d'une certaine manière que ce combat avec Dieu, avec El, anticipe en quelque sorte le combat que Jacob redoutait avec Ésaü. Parce qu'il n'y a plus de combat. Il avait peur, il avait cherché des stratégies, il avait prié, mais voilà. Donc je pense que ce récit, comme le récit de Bethel, je vous ai déjà dit, je ne pense pas que c'est des récits indépendants qui ont circulé comme ça. Je pense que c'est des récits qui ont été, en effet, au 8e siècle, intégrés dans l'histoire de Jacob, avec deux buts très clairs. Bethel, légitimer le sanctuaire royal de Jéroboam, 2, et Jacob, faire de Jacob Israël, c'est-à-dire un ancêtre national. Donc les deux vont ensemble et ils ont tout à fait à leur place. Par contre, je pense qu'il y a des relectures, parce qu'on ne savait pas très bien est-ce qu'il était seul, est-ce qu'il est avec les femmes, etc. Donc il a dit non, il faut qu'il soit seul. Dans le tableau de Delacroix que je vous ai montré, il n'est pas seul, mais bon. Donc il est seul, mais du coup on précise qu'il avait en effet évacué en fait toute sa famille avant cette attaque. Il y a aussi une difficulté. Si vous lisez le texte, vous ne savez jamais trop qui fait quoi. Il y a beaucoup de « ils ». Il y a beaucoup de « ils », mais on ne sait pas. Donc du coup, on peut se poser la question si à l'origine, ce n'est pas Jacob qui frappe la hanche de l'agresseur. Grammaticalement, c'est compliqué, mais si vous regardez, en fait, il vit qu'il ne l'emporta pas sur lui. Il le frappa, le creux de sa hanche. Donc du coup, c'est qui? Pas évident. Donc il est pas impossible que c'est en fait Jacob qui, de nouveau, comme en Genèse 28, est quelqu'un de très fort. Nous l'avons vu avec la pierre, tout ça. Là, il peut affronter un être divin. Donc c'est lui qui frappa peut-être cet être divin. Et après, on s'est dit, c'est pas possible. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. Donc on a rajouté, en fait, le creux de la hanche de Jacob se déboîta, évidemment en précisant la même chose, aussi que finalement, il boite à cause de sa hanche. On peut aussi se poser la question si cette idée de cet être qui dit « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom ?» est-ce que ça fait vraiment partie de l'histoire ancienne? Parce que ça n'a pas de fonction dans cette histoire. C'est important que Jacob change de nom, mais le nom de cet agresseur, de toute façon, Jacob va mentionner le nom de Penuel ensuite. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose déjà qui est une réflexion sur le fait qu'il ne faut pas prononcer, nommer Dieu comme je serais, comme qui je serais. Donc là, du coup, on peut se poser la question si cette partie-là du verset 30 n'est pas aussi un ajout. Et tout le monde est d'accord pour dire ce tabou alimentaire. Ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute, si je peux dire ici. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, c'est certainement un ajout. Donc, vous avez un récit qui se tient très bien. Elle se lève à cette nuit, traverse le gué du Yabok. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il n'emporta pas sur lui. Il frappa le creux de sa hanche. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Il dit « Je ne te laisserai pas, sauf si tu me bénis. » Il dit « Quel est ton nom ?» Il dit « Jacob. » Il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu, avec les hommes, et tu l'as emporté. » Il le bénit là. Jacob appela le nom du lieu Penuel, car j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. Le soleil se leva sur lui alors qu'il passa Penuel. Voilà, ça c'est le récit qui se tient très bien. Donc c'est bien quand on peut améliorer la Bible. Hein, parce que... Non, ce n'est pas amélioré, mais c'est une manière de vous dire comment, en fait, le récit premier a pu se présenter au 8e siècle, où vous le montrez comment Jacob devient Israël. Donc, avec cette traversée du Yabok, voilà, le Yabok, qui aujourd'hui s'appelle le Wadi Tserka ou Nares Tserka, qui marque une frontière. C'est vraiment une rivière qui marque une frontière. Et en traversant le Yabok, Jacob retourne dans sa patrie. Est-ce que c'est aussi une frontière à l'époque de Jéroboam II? Tout à fait possible. L'attaque nocturne, c'est d'abord quelqu'un. Quelqu'un, Ish, un homme. Mais il n'y a pas de précision. Donc après, on se pose toutes sortes de questions. Est-ce que c'est un démon? L'esprit du fleuve? Il y a des rabbins qui ont trouvé Satan. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Mais le texte ne s'y intéresse pas. Le texte, en fait, c'est presque un peu comme Exode 4. Jacob est en contact avec le divin de manière assez directe. Et le mot qu'il utilisait ici pour lutter, ce sera un autre mot après, quand on explique le nom d'Israël, c'est Abak, qui peut être lié à un substantif qui signifie la poussière, d'où une traduction, la Top traduit, ils se roulèrent, donc pas ils luttèrent, ils se roulèrent dans la poussière. C'est pas impossible. Certes, on y a vu une allusion à Yaakov, Abak Yaakov, mais on peut aussi voir une allusion peut-être au Yabok, c'est pas tout à fait clair. Mais comme je vous ai déjà dit, ce texte présuppose de nouveau en fait la force de Jacob, et puis donc cette idée en fait que l'attaquant doit partir avant que le jour se lève. Je vous dis, c'est un thème en effet assez courant. Je vous ai mis un exemple ici de Amphitryon où Jupiter dit « Mais pourquoi me retiens-tu ? Il est temps, quitter la ville avant l'aurore, c'est ce que je veux. » Donc c'est un peu la même chose. Et en fait, en échange, donc on voit quand même que Jacob est fort, il peut retenir son attaquant, hein, et en échange, il demande une bénédiction. En Genèse 27, il avait obtenu la bénédiction par la ruse, et ici, il l'obtient un peu par la force. Hein ? Donc, ce n'est pas non plus gratuit, d'une certaine manière. Donc, il est béni, mais parce qu'il négocie cette bénédiction, qui est donnée après que l'attaquant lui a changé le nom. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Donc, ici, évidemment, on ne va pas prendre Abak, on va prendre Sarah, Israël, Sarah, combattre, même terme qui se trouve encore en Osée 12, et c'est le seul endroit, en fait, dans la Bible, où on a cette racine. Donc, si on prend cette étymologie-là, le sens originel d'Israël, ce serait en fait que « il combatte », hein, puisque, évidemment, on ne peut pas dire Israël veut dire celui qui a combattu avec il, donc ce n'est pas l'objet, c'est le sujet. Mais cette racine, comme je vous ai dit, elle est peut-être même presque créée pour l'occasion, hein, pour ce combat. Donc il y a une autre hypothèse qui est plus plausible, qu'en fait, à l'origine, la bonne étymologie, si on peut dire la bonne, mais l'étymologie du départ, était plutôt la racine Sarar, régner, gouverner, commander, donc que il s'impose comme maître, qu'El règne, ce qui convient tout à fait au dieu El, qui est toujours présenté comme trônant, comme régnant. Et nous avons d'ailleurs aussi, dans la Bible, des noms propres comme Seraya ou Serayahu, où en fait la même racine est appliquée à Yahvé, que Yahvé règne. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on a cherché à expliquer le nom d'Israël. Et évidemment, avec le combat, il fallait trouver quelque chose, donc Sarah s'imposait. Peut-être à l'origine, c'était plutôt El qui règne, après El qui combat. Lorsque Yahvé va être identifié à El, c'est aussi une explication qui est importante. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit souvent, ce n'est pas si important l'étymologie originelle. Hein. Ce qui est souvent plus important, c'est l'explication qu'on donne dans les récits. Et là, évidemment, c'est combattre. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment... qu'est-ce qu'il faut dire ? Le centre de ce récit, dorénavant, Jacob et Israël. Et donc, si on situe ça à l'époque de Jéroboam II, l'idée, c'est de reprendre cette ancienne tradition de Jacob et de faire de Jacob l'ancêtre du royaume du Nord d'Israël. C'est pour cela qu'il change de nom. Abraham, il n'a pas du tout le même destin. Il ne devient jamais un ancêtre national. Judas n'est pas identifié à Abraham. Abraham, plus tard, va lui changer de nom parce qu'on se dit, ah, Jacob a changé de nom. Il faut quand même aussi qu'Abraham change de nom. Mais on construit un truc un peu curieux avec Avram qui devient Avraham. On rajoute un H et puis voilà, on fait un jeu avec la multitude, mais ça n'a pas beaucoup d'importance en fait dans l'histoire d'Abraham, alors qu'ici, ça a beaucoup d'importance parce que maintenant, en effet, Jacob est devenu l'ancêtre d'Israël. Et comme je vous ai déjà dit, cette idée qu'il veut maintenant aussi savoir le nom de son attaquant, je pense que c'est plutôt une addition. On a d'ailleurs presque la même question dans un texte aussi récent, lors de la manifestation de l'ange à Manoah, donc le père de Samson. Il dit aussi « Quel est ton nom, afin que nous puissions t'honorer ?» Et l'ange de Yahvé lui dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est mystérieux. » Donc on est déjà dans cette idée, il ne faut pas le prononcer, réfléchir le nom. Par contre, Jacob donne un nom à Olieu. Hein, j'ai vu, il l'appelait le nom de Penuel. Car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Ça vous rappelle Hagar. Hein, Hagar, lors de la rencontre avec aussi un ange, là, du coup, à Malach, elle va dire tu es El Roi, c'est intéressant, parce qu'on retrouve de nouveau El. Donc il y a beaucoup de liens entre El et les récits patriarcaux. Hein, tu es El Roi, El de la vision. Puisqu'elle avait dit « N'ai-je pas vu ici ?» Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut reconstruire le texte ancien. « Et je suis resté en vie. » Donc ça veut dire en fait que Hagar et Jacob ont vu la face de Dieu, contrairement en fait à Moïse, auquel on le refuse. Quand il veut le voir, Dieu dit « Non, non, tu ne peux pas voir ma face, personne ne peut me voir. » Donc Penuel, face de Dieu, Penuel est mentionné encore deux fois seulement dans la Bible, donc un lieu apparemment moins important que Bethel. Donc il est mentionné deux fois, une fois dans le livre de Juges, où Gédéon part en campagne contre les Madianites, où il passe à Souk de Penuel et les habitants ne l'accueillent pas bien. Donc du coup, il va massacrer tous les habitants de Penuel et on dit qu'il détruit une tour qui se trouve là-bas. Et puis en 1 Roi 12, 25, ça c'est intéressant, parce que là, on a Jéroboam, le premier, selon la logique biblique, qui fortifia Sichem, et puis il fortifia Penuel. Donc on a Sichem et Penuel ensemble, et Jacob, nous allons le voir la semaine prochaine, Jacob va passer de Penuel à Sukkot et à Sichem. Donc peut-être là, on a des lieux qui sont liés à la première tradition sur Jacob. Très, très vite, où est-ce qu'il faut situer Penuel ? Il y a trois lieux. Derala. Derala, c'est là où on a trouvé cette inscription mentionnant Balaam, où la colline est de cette colline de l'argent, de l'or, tel el Tahab et tel el Hamé. Donc on n'est pas tout à fait d'accord. Tel Derala, ici, c'est une possibilité, mais c'est un peu loin quand même du Yabok. Il y a un sanctuaire au bronze récent, mais pas tellement de traces de fortifications au fer 2. L'autre côté, donc. Ah, décidément. Voilà. Voilà. L'autre côté, ce serait de dire que c'est la partie est de ces doubles collines. Et c'est très. Si vous regardez la photo, on peut très bien imaginer là le combat, non ? C'est magnifique. Donc, ça pourrait être ça. Il y a des gens qui disent oui, mais si c'est un duel, est-ce qu'un duel peut, en effet, Mahanaïm, est-ce que si on veut identifier un avec Mahanaïm, on peut dire l'autre c'est un autre endroit ? C'est compliqué, mais ce n'est pas non plus totalement exclure. Ou alors, on identifie la Tel El Hamé, qui se trouve donc un peu. Alors, qui se trouve un peu, voilà, un peu plus à l'est, donc de, à l'ouest, pardon, de Tel Tahab. Le problème de ce Tel, c'est qu'il a été totalement détruit parce qu'on a retiré des pierres et du sable pour des constructions modernes au XXe siècle, donc on a peu d'idées précises. Donc, c'est soit le Toulul El Tahab ou le Tel El Hamé. Et vous voyez, là, vous avez une photo du 19e siècle. Vous voyez que le Yabok, parce que si vous voyez aujourd'hui le Yabok, il n'est pas très impressionnant. Mais si vous regardez donc, cette photo-là, vous voyez que, voilà, il y a quand même de l'eau. Il fallait traverser avec des chevaux. Et pour finir, cet ajout midrashique sur le fait qu'il ne faut plus manger le nerf sciatique. C'est au moins comme ça que le judaïsme interprète cette expression difficile, « git ha-nasseh ». Donc, le problème, c'est évidemment d'expliquer pourquoi une prescription se trouve en dehors de la loi. Donc, les rabbins ont dit c'est très simple, parce qu'en fait, c'est Moïse qui l'a placé là. Donc, ça a aussi valeur de loi divine. Et la Tosefta, donc c'est une sorte de collection aussi de discussion midrashique, elle remarque une chose intéressante, et c'est intéressant aussi pour nous, parce que le verset parle pas des fils de Jacob. Alors, ça aurait été concerné que le 12 fils. Mais il parle des fils d'Israël. Donc, ça concerne, en fait, tout le peuple d'Israël. Et ce qui est juste dans cette remarque, c'est en effet que cet ajout se base tout de suite sur ce changement de nom. Jacob est devenu Israël, donc on parle immédiatement dans ce commentaire. C'est pour cela que les fils d'Israël ne mangent plus ce nerf sciatique. Voilà, la semaine prochaine, ce sera notre dernier cours. Tout à l'heure, dans 20 minutes ou un quart d'heure, dans le séminaire, nous allons reprendre un peu une discussion que nous avons eue la semaine dernière sur les femmes. Ici, on va rester pour ceux qui veulent rester pour le séminaire. C'est Jörg Kutzli qui va nous parler de la stérilité et plus particulièrement de la stérilité de la mère de Samuel, qui va mettre ça un peu en rapport avec les stérilités qu'on a dans les récits patriarcaux. Donc la semaine prochaine, nous allons voir la réconciliation, on se pose la question, est-ce que c'est une vraie réconciliation ou non ? Nous allons aussi aborder une histoire très bizarre où il y a la fille de Jacob qui joue un rôle important, là, le viol de Dina. Et puis, nous allons voir comment l'histoire se termine sans vraiment se terminer. Alors, à la semaine prochaine, ou alors à tout à l'heure, si vous restez pour le séminaire. Très bien.